RTL. La vie flamand sur RTL. Jour J.
Stéphane Albertini, Nick Alexander, Jean-Jacques Amyot, Jorge Alonso de Celada, Anne-Laure Arouébo, Thomas Ayad, Halima Ben Khalifa Saadi, Oda Ben Khalifa Saadi, Chloé Boissineau, Emmanuel Bonnet, Maxime Bouffard, Quentin Boulanger, Makateo Ludovic Bumba, Elodie Breuil, Cyprien Calciou, Lacramio Arapop, Claire Camax, Nicolas Catina, Baptiste Chevreau, Nicolas Classot, Anne Cornet, Priscilla Correa, Cécile Coudon-Pécadéo, Marie-Aimée Dalloz, Guillaume Barraud de Scherf, Nicolas Degenhardt, Elsa Delplace, Lucie Dietrich, Asta Diakite, Manuel Colacodias, Alban de Nuit, Vincent de Toc, Romain Didier, Élif Dogan, Fabrice Dubois, Romain Dunet, Thomas Duperron, Mathias Dimarski, Germain Ferré, Romain Feuillade, Grégory Foss, Christophe Foultier, Julien Galisson, Mayol Gobert, Cédric Ginestou, Juan Alberto González Garrido, Suzon Garrigue, Véronique Geoffroy de Bourgie, Michel Ril-Raimès, Mathieu Giroux, Cédric Gomet, Noémie González, Pierre-Yves Guyomard, Stéphane H, Thierry Ardouin, Olivier Auducœur, Frédéric Hénineau, Pierre-Antoine Henry, Raphaël Hills, Mathieu Hoche, Jamila Oud, Mohamed Amin Ibn Moubarak, Pierre Innocenti, Nathalie Jardin, Marion Joanneau, Milko Josic, Elif Dogan, Jean-Jacques Kirchheim, Hyacinthe Coma, Marie Loche, Nathalie Lorraine, Guillaume Ledran, Renaud Le Guen, Gilles Leclerc, Christophe Lelouch, Antoine Marie, Cédric Mauduit, Charlotte Méo, Émilie Méo, Isabelle Merlin, Lamia Mondeguerre, Fanny Minot, Yannick Mainviel, Cécile Miss, Marie Mosser, Justine Moulin, Quentin Mourier, Victor Munoz, Christophe Mutez, Hélène Muyal-Léris, Lola Ouzounian, Romain Naufle, Christopher Neuchalter, Bertrand Navarré, David Perchirin, Aurélie de Peretti, Manu Pérez, Sven Silva Perugini, Anne Pétard-Liefrig, Marion Pétard-Liefrig, Franck Pitiot, Caroline Prenat, François-Xavier Prévost, Sébastien Proisy, Armel Pumir Antisevic, Richard Raman, Valentin Ribé, Mathieu de Rorté, Estelle Roua, Thibaut Rousse-Lacordaire, Raphaël Ruiz, Madeleine Sadin, Kéridine Sabi, Lola Saline, Patricia Sandmartin, Hugo Sarade, Claire Cessac-Amax, Maud Serrault, Valéria Solézin, Fabien Steck, Madeleine S, Ariane Théier, Éric Thomé, Olivier Vernadal, Stella Véry, Louise Felipe Zocheval, Stéphane Grégoire. Tous sont tombés sous la barbarie le 13 novembre 2015. Bonsoir à tous, à tout de suite dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J qui ce soir nous replonge dans les heures noires du 13 novembre 2015 à Paris. Des attentats perpétrés par un escadron assassin aux abords du Stade de France, sur des terrasses du 10e et 11e arrondissement et au Bataclan. Nous pleurons 130 morts et 493 blessés. Cela fera 6 ans après demain. Christophe Molmy, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ancien chef de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Vous êtes intervenu, vous, évidemment, sur place et au Bataclan ce 13 novembre 2015. Et aujourd'hui, vous êtes chef de la brigade de protection des mineurs. À vos côtés, Victor Rouard. Bonsoir, Victor.
Bonsoir.
Merci d'être là. Merci pour votre confiance. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur du livre « Comment pourrais-je pardonner ?» aux éditions de l'Observatoire. Car vous étiez, vous, ce soir-là au Bataclan. C'est fou parce que quand on lit votre livre, qui est intéressant, évidemment, À plusieurs égards, on y reviendra parce que il y a la narration de ce qui nous, de ce que l'on n'a pas vécu nous, hein, puisque nous n'étions pas justement au cœur même du Bataclan. Et puis il y a aussi toute la réflexion qui a accompagné votre convalescence. Et c'est en ça que c'est un ouvrage, je pense, très précieux. Victor Houard, ce jour-là, vous aviez comme un pressentiment. Vous n'étiez pas parisien.
Alors non, pas encore. Oui. J'avais l'habitude de retourner régulièrement à Paris les week-ends. J'envisageais de m'y installer. Enfin, il y a une réflexion dans ce sens. Et oui, disons que j'étais assez anxieux à ce moment-là par rapport au contexte géopolitique.
Déjà
avec tout ce qui se passait au niveau du terrorisme. Et donc voilà, donc j'avais pas non plus une crainte particulière. Je pouvais évidemment pas imaginer qu'il allait se passer un tel drame, mais je voilà, en prenant le train, en prenant les transports, tout ça, malgré tout, une sorte d'anxiété apparaissait en moi.
Voilà, vous étiez un petit peu sur vos gardes, je dirais, hein, comme déjà marqué par des attaques précédentes qui avaient malheureusement fait l'actualité. Vous venez donc à Paris pour assister à différents concerts, et notamment donc le Bataclan le soir même. Vous rejoignez un ami qui s'appelle Pierre, et tous les deux, donc vous allez, vous rendez au Bataclan.
Oui, alors au départ, nous étions à côté du bar, donc à l'arrière de la salle. Oui. Donc on assiste à la première partie. On va dire, assez distante, on ressort fumer une cigarette, tout ça, bon, on discute, on prend quelques bières, bon, jusque-là tout va bien, et on s'aperçoit en fait qu'il reste de la place dans la fosse, donc pendant l'entracte, avant que le groupe Eagles of Death Metal démarre son spectacle, on décide de se rapprocher et d'aller dans la fosse. Bon, ce qui peut paraître anecdotique, mais finalement il s'avéra que c'était... on a pris la bonne décision, puisque c'est probablement ce qui nous a sauvés quand on connaît malheureusement le sort de la plupart des personnes qui étaient présentes au bar au moment du début de l'attaque, puisque le bar se situait à côté de l'entrée principale de la salle.
Alors vous allez donc avec Pierre au centre de la salle, vous assistez à ce concert, c'est un concert comme on peut les imaginer, hein, c'est ce que vous dites, c'est le vendredi soir, c'est la fin de la semaine, c'est la fatigue et les nerfs qui lâchent comme ça dans un concert, c'est de la joie, c'est du rock, enfin il y a du bruit, il y a tout ça, et pourtant à un moment donné vos regards à tous se croisent dans la fosse parce que vous entendez quelque chose qui n'a rien à voir finalement avec la musique.
Oui, à partir de ce moment-là, il y a une inquiétude qui on dit, les spectateurs se regardent, je regarde Pierre aussi, on en parle. Bon, au départ, on s'imagine évidemment pas une attaque ou quelque chose de ce type, mais on entend tout de même des bruits assez étranges, très, très forts. Donc, au départ, j'imagine que c'est plutôt un problème technique qui provient d'un ampli ou lié en tout cas au concert. Et finalement, au fil des secondes, les minutes, l'inquiétude grandit. Finalement, on est en train de se dire que non, quelque chose ne va pas, il y a quelque chose de pas normal. Pour assister régulièrement à des concerts, voilà. J'étais très étonné qu'il s'agisse d'un problème technique. Et finalement, tout va assez vite.
En fait, c'était les premiers coups de feu, hein, ça, au sein du Bataclan.
Et finalement, en fait, ce bruit devient de plus en plus intense.
Se rapproche
et de plus en plus distinctif, finalement. Et donc, à partir de là, on entend un coup de feu, donc on se met à terre. Mon regard est tourné du coup vers la porte d'entrée. Je regarde plus du tout la scène. Et à ce moment-là, le groupe quitte la scène. Il y a une sorte de silence qui s'empare de la salle. Et en fait, c'est le moment vraiment très fort et très dur. Donc là, on a compris qu'il se passait vraiment quelque chose de grave. Donc je pense tout de suite qu'il s'agisse d'un attentat terroriste. On regarde du contexte. Et finalement, j'entends une personne crier « il nous tire dessus ». Et à partir de là, donc c'est la panique, on essaie de s'enfuir. Et j'ai un trou de mémoire, en fait. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, et ma mémoire revient au moment où j'arrive à identifier en fait, l'un des terroristes. Donc, je vois en train de tirer dans la foule et j'essaie de trouver une sortie à ce moment-là.
Vous essayez de trouver une sortie, vous repassez par la fosse en fait vous vous réexposez en cherchant la sortie. Quand vous voyez que tout le monde s'amasse vers la sortie principale, vous vous dites il faut que je trouve moi une autre sortie, et donc vous savez que vous allez vous réexposer finalement au tir pour pouvoir sauver votre peau. C'est là que vous êtes percuté par des balles.
Oui, voilà. Alors j'essaye de trouver une autre issue, donc je me dirige à l'opposé du côté où j'étais. Et donc je cours une avance sans regarder derrière moi. Et là, j'entends en fait le bruit des projectiles d'une violence inouïe qui se rapproche, comme si on me suivait jusqu'à ce que je sois en fait fauché, littéralement fauché. Je me retrouve vraiment projeté à terre. Ouais. Donc là, je comprends que j'ai été atteint par une balle. J'ai l'oreille qui siffle, je suis complètement sonné à terre. Et puis là, une douleur évidemment insupportable apparaît. Je regarde l'état de mes jambes et je comprends qu'elles ont été brisées par la violence de l'impact.
Et là, vous vivez un moment de solidarité dans l'horreur avec une personne qui passe à côté de vous.
Tout à fait. Alors je crie de douleur, je demande de l'aide finalement, et une personne très courageuse essaie de m'aider, de me porter. Bon, la douleur est intense vu l'urgence de la situation. Bon, on réfléchit pas, c'est vraiment l'instinct de survie qui prime à ce moment-là, et finalement rien à faire. On peut pas s'enfuir, donc on se retrouve piégé, et finalement on s'allonge dans la fosse. Et je me retrouve au milieu de plusieurs personnes, blessées, non blessées. Et l'instinct de survie nous dit de faire le mort pour essayer d'échapper à ça, puisque c'est en tout cas dans mon état, c'est la seule issue possible à ce moment-là.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Victor Rouard. On va se retrouver dans un instant avec vous également, Christophe Molmy, et revoir heure par heure ce qui s'est passé ce soir-là, tant effectivement au niveau du Bataclan et de ceux qui étaient avec vous, Victor Rouard, qu'au niveau évidemment de la BRI. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nos invités ce soir jusqu'à 21h sont Christophe Molmy, qui était chef de la brigade de recherche et d'intervention le 13 novembre 2015, et Victor Rouard, qui lui est un rescapé du Bataclan. Vous êtes vous-même journaliste aujourd'hui, Victor Rouard, et je conseille votre livre « Comment pourrais-je pardonner ?» aux éditions de l'Observatoire, avec une vraie réflexion effectivement sur le pardon qui est très intéressante. Je le conseille à tous ceux qui nous écoutent. Vous étiez donc ce soir-là au Bataclan, on s'est quitté il y a un court instant, vous étiez donc au sol, en compagnie d'une personne qui a voulu vous secourir. C'est-à-dire que dans des moments de chaos et d'horreur, il est aussi des personnes qui tout à coup sont là, proches, et essayent à un moment donné d'être dans la solidarité. Malheureusement, vous vous retrouvez tous les deux donc allongés au milieu d'autres, donc sur le sol du Bataclan. Est-ce que je peux vous demander ce que vous ressentez à ce moment-là, puisque on va en parler avec Christophe Molmy, mais il fut quelques minutes après prévenu de cette attaque. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, quand vous êtes dans l'obscurité du Bataclan ?
Alors déjà, c'est très difficile au départ de réaliser en fait ce qui est en train de se produire, même si l'évidence saute aux yeux. Et il y a évidemment l'instinct de survie qui prime, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de rester en vie par tous les moyens. Et à partir du moment où je me retrouve au sol dans cette situation, je me dis comment est-ce possible. C'est vraiment la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce possible, pourquoi maintenant, pourquoi nous, pourquoi tout ça en fait. J'allais voir un concert un vendredi soir, c'était plutôt un moment festif, et on se retrouve plongé en quelques minutes dans l'horreur la plus absolue, une scène de guerre. À ce moment-là, je fais le mort comme les autres autour de moi, donc j'ai vraiment le visage face au plongeon en fait, donc je vois plus en pas ce qui se passe. J'essaie de pas bouger d'un centimètre pour ne pas attirer l'attention, et en fait on se met à chuchoter avec les autres pour essayer de s'entraider. Donc là il y a effectivement une solidarité assez belle, où on essaye malgré notre situation dramatique et urgente de s'entraider de la manière la plus basique qui soit, en se parlant, en essayant de se calmer les uns les autres aussi, d'essayer de d'analyser la situation. Donc à ce moment-là, je me dis je suis blessé, je suis incapable de pouvoir bouger, de me lever. Donc la seule solution qui pourrait nous sauver, c'est évidemment qu'il y ait une intervention, et en espérant qu'elle se déroule bien, qu'il n'y ait pas que les terroristes ne procèdent pas des exécutions avant. Donc voilà, il y a toutes ces questions.
Parce que vous entendiez tout ce qui se passait aussi autour. Vous étiez en réflexion, vous étiez entre vous, mais vous entendiez aussi tout ce qu'il y avait, tout ce qui se passait dans la salle.
C'était pas très clair évidemment pour moi à ce moment-là. Donc c'est ensuite que j'ai pu remettre en ordre, je dirais, mon récit. J'essaye vraiment de le raconter de la manière dont je l'ai perçu donc, à ce moment-là. Donc, certaines choses ne sont pas très nettes quand j'entends voilà, les explosions ensuite, les interventions. Donc, tout d'abord, du commissaire d'ABAC, son adjoint. Donc, mais j'entends des explosions et à ce moment-là, au moment de la première explosion, une nouvelle crainte apparaît en moi, en fait, puisque je comprends donc qu'ils sont armés d'explosifs et qu'ils seraient susceptibles, par exemple, de faire sauter tout simplement le bâtiment. Enfin, voilà, beaucoup de questions arrivent à ce moment-là et c'est très difficile. On s'attache à la vie en tant qu'elle est encore présente, mais le désespoir commençait tout de même à apparaître en moi à ce moment-là.
Christophe Molmy, vous étiez donc chef de la brigade de recherche et d'intervention en 2015. Vous avez été informé d'abord de l'explosion devant le Stade de France. Ouais. C'était aux heures autour de 21h19. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
Bien, la première explosion, on se dit que ça peut être un accident, ça peut être une baraque à frites qui explose, un pétard agricole, il faut rester prudent. Mais on était quand même très en éveil, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que novembre vient évidemment après les attentats de janvier. La BRI avait lancé l'assaut à l'hypercachère, donc on était plus que mobilisés sur la question. Donc évidemment, dès qu'on a su parler des mineurs qu'une bombe avait sauté, on s'est mis sur les ergots, mais il n'y a aucune raison d'y aller, encore une fois, tant on n'est pas sûr. Et puis, il faut comprendre aussi qu'un groupe d'intervention n'amène pas de plus-value là où une bombe a sauté. C'est pas notre travail, on n'amène rien. Bon, dès qu'on a su qu'une deuxième bombe avait sauté, là, on n'a pas eu de doute sur le fait que la région parisienne, à tout le moins, a été attaquée. Ça, c'était certain. Mais pareil, on n'avait pas vraiment d'endroit sur lequel intervenir. Donc, on a sensibilisé toutes les équipes d'alerte. Et on est resté chez nous, puisque on a une première alerte à la BRI, avec ce qu'on appelle la force d'intervention rapide, où les opérateurs gardent le matériel chez eux, le fusil d'assaut, tout le matériel, pour aller immédiatement sur les lieux d'intervention. Donc on a attendu un peu. Et puis, ma foi, on n'a pas eu vraiment d'informations jusqu'à 21h47. Moi, je suis prévenu par un journaliste, en fait, qui m'envoie un SMS en me demandant si je suis au courant des tirs sur Paris. Bon, donc là, il n'y a plus de doute, et nécessairement, on devait être impliqué. Donc, j'ai lancé immédiatement la première colonne dont je faisais partie. Et ne sachant pas exactement où aller, en fait, on s'est replié au 36. Pourquoi ? Parce que
vous appelez le 36, c'est le 36 qui est les orfèvres.
La base de la BRI. Parce que c'est au centre de Paris et qu'on peut intervenir partout dans le même temps, parce qu'on avait aussi besoin d'un peu plus de matériel, parce que les explosions, les gilets explosifs, parce qu'on nous avait expliqué qu'il y avait des gilets explosifs, induisaient qu'on risquait d'être de nouveau face à ce type d'armement, et on avait besoin de boucliers, d'explosifs aussi, et d'armement plus lourd. Donc on est repassé au 36, et pendant ce temps-là, moi j'ai vu avec mon état-major pour savoir où on pouvait intervenir, et s'il y avait lieu qu'on intervienne. Si une attaque n'était pas terminée, où on pouvait amener vraiment une plus-value et neutraliser des terroristes. Donc on a attendu, mais très peu de temps. Le temps de s'équiper, on est reparti très vite. On est arrivé à 22h, 21h47, 22h au service, vous voyez, on repart du service à 22h10 environ. Ma première destination, c'est rue de Charonne. On me dit, tu vas rue de Charonne parce qu'un des tireurs s'est réfugié dans un immeuble. Donc on part rue de Charonne. Et puis sur la route, en fait, mon directeur me rappelle en me disant, non, tu viens au Bataclan, c'est là que ça se passe. Donc on se réoriente sur le Bataclan, c'est à peu près la même route, et on arrive là-bas, il est, je dis toujours, on s'environne 22h20 parce que j'ai pas passé mon temps né sur ma montre, donc il était à peu près 22h20, et là bon, il faut prendre la mesure de tout le chaos qui a été provoqué par ces attentats. Quoi.
On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien, parce qu'effectivement vous arrivez au Bataclan vers 22h20, est-ce que vous connaissiez les lieux, comment est-ce qu'on aborde une salle de spectacle dans laquelle on ne sait pas réellement ce qu'il s'y passe, et vous, vous étiez au sein du Bataclan, Victor Rouard, c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci de suivre jour J chaque soir entre 20h et 21h sur RTL en compagnie ce soir de Christophe Molmy et de Victor Rouard. Nous sommes au Bataclan le 13 novembre 2015. Il est 22h20 lorsque vous arrivez devant cette salle. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'y passe en réalité, Christophe Molmy, à ce moment-là ?
Bien, tout de suite, on fait le point avec la DESPAT, donc les collègues en tenue, pour savoir si le périmètre est tenu et ce qui vient de se passer. Et je vais immédiatement, presque immédiatement après, rencontrer le collègue de la BAC Nuit, qui est devant, en fait, à l'extérieur, devant l'entrée, et qui me fait un point très rapide. Bon, il est choqué, c'est normal, parce qu'il vient juste d'intervenir quelques minutes auparavant. Et lui me dit qu'ils ont abattu un des terroristes qui a été touché et qui s'est fait exploser, ce qui est d'ailleurs une chance parce qu'il s'est fait exploser lorsqu'il était au sol. Ça fait que le blast, les débris qu'il avait sur lui dans la patte, dans le TATP, sont partis vers le ciel et vers le, en l'air et pas autour des otages. Ou très peu. Et quand je lui demande s'il reste des terroristes, il me dit qu'il ne sait pas, en fait. Il me dit j'en sais rien du tout parce qu'il y avait à peu près 1600 personnes dans la salle. Beaucoup de personnes ont réussi à sortir pendant les tirs. On ne sait pas si d'autres ont pu sortir par les sorties de secours, donc on n'a pas une idée très claire de la situation. Alors vous me demandiez par rapport au lieu. Non évidemment, moi j'étais jamais allé au Bataclan. Il y a tellement de salles de spectacle à Paris que c'est impossible.
Vous n'avez pas tous les plans sur vous.
On fait des dossiers sur des dossiers ce qu'on appelle objectifs sur les grands bâtiments, style le Louvre, l'Opéra de Paris ou autre, mais toutes les salles, non. Et bien évidemment, alors je me porte à l'entrée avec cette première équipe qui est avec moi. Et là, on comprend rapidement que la difficulté de l'intervention tient au fait qu'il faut faire deux missions en même temps. En réalité, c'était ça le problème du Bataclan, c'est que la mission d'un groupe d'intervention, c'est de discerner, de savoir s'il y a des terroristes et puis de les neutraliser. Mais nous, on n'est pas là pour porter secours aux blessés. C'est pas notre métier, c'est le métier des services de secours. Or, les services de secours ne pouvaient pas rentrer, et de toute façon, d'abord, ils voulaient pas, mais je les aurais pas autorisés à rentrer parce que ils pouvaient effectivement rester des tireurs embusqués, ils pouvaient y avoir des engins explosifs, et ils peuvent pas être vulnérabilisés. Et puis, vous savez, on avait des relations avec les groupes de renseignement militaires, depuis longtemps déjà, et ils nous disaient qu'en Syrie, ils pratiquaient énormément le surattentat. Un premier attentat, et à peu près une demi-heure après, un second beaucoup plus violent pour tuer les personnes intervenant, les services de secours. Donc il a fallu rentrer le plus rapidement possible. Je dis le plus rapidement possible parce que je conçois que ça puisse être long pour les otages, les blessés, je le sais ça, mais il faut aller très vite, mais il ne faut pas se précipiter parce que les conséquences peuvent être dramatiques.
Bien sûr.
Donc il a fallu le plus rapidement possible sécuriser cette salle, notamment la fosse. Et alors, c'est extrêmement difficile parce que vous avez une pièce qui est très grande. C'était relativement bien éclairé, mais il y avait quand même des angles morts un peu partout. Surplombé sur les côtés, de chaque côté de balcon. Donc, c'est des points idéaux pour des tireurs pour me tirer dessus. Voilà. Donc, et on craignait aussi des engins disséminés explosifs. Donc, on a mis à peu près un quart d'heure, je dirais, de mémoire pour vraiment avoir le sentiment qu'on était en sécurité en bas. Faire d'abord sortir les personnes valides. Il a fallu se rattraper parce qu'au début, moi, j'ai demandé aux personnes valides de sortir, mais tous ont voulu sortir d'un seul coup. Ça a été un peu la panique, donc il a fallu les rattraper et leur demander de sortir par secteur parce qu'ils avaient hâte de sortir, ce qui est tout à fait naturel. Et dans la bousculade, on craignait qu'il y ait encore d'autres blessés. Donc on a fait sortir peu à peu, et ensuite sont restés les blessés, beaucoup de blessés. Et on a fait rentrer des collègues, ce sont des collègues de sécurité publique, non, c'est pas le métier, qui sont rentrés avec des civières. On n'avait plus de civières après, donc ils sont rentrés avec des barrières Vauban, ce qu'on appelle, des barrières en métal, pour récupérer les blessés sous notre protection et les sortir et les ramener jusqu'aux pompiers, au point de regroupement de victimes, pour qu'ensuite ils soient dirigés vers des hôpitaux.
Alors justement, Victor Ward, c'est là où vous avez été vous-même secouru, après effectivement la sortie des personnes valides. J'ai cru également lire en fait, il avait été difficile aussi pour les personnes au sein du Bataclan, dans un premier temps, de distinguer les forces de police des terroristes. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'imagine que tout le monde était dans un état de sidération tel que c'est la peur qui primait. Il a fallu rétablir un climat de confiance, si je puis dire.
Oui, c'était compliqué, bien sûr, parce qu'on imagine bien que rentrer avec un fusil d'assaut, c'est pas rassurant. Et puis, vous avez un peu tous les types d'otages. Vous avez ceux qui sont très très pressés de sortir, qui pour nous sont une menace, parce qu'ils nous courent quasiment dessus, et qu'on fasse attention, parce qu'on peut très bien avoir et un terroriste, voire un otage piégé, parce qu'on savait que, par exemple, en Syrie, ils piégeaient un otage en disant « on va te faire sauter, sinon on tue, par exemple, ta femme, ton frère ou autre ». Donc pour nous, c'était très difficile, et on en avait beaucoup aussi qui étaient catatoniques, qui ne bougeaient plus, qu'il fallait essayer de redresser et d'aider à sortir, et le plus vite possible. Donc, et c'est vrai que nous ne sommes pas des services de secours, on n'a pas toujours les mots qu'il faut, donc c'était très compliqué.
Ouais, Victor Ouar, vous vous souvenez donc de ce moment où vous avez compris que les forces de police étaient là et que voilà, il y avait une sorte d'éclaircie dans cette immense obscurité.
Oui, parce qu'une personne, une jeune femme qui était en face de moi, avec qui on avait pu échanger en chuchotant, l'intervention en fait me dit c'est bon, ils arrivent, et finalement le message entre nous se transmet. Moi-même, je dis ça à mon voisin de droite. Donc à ce moment-là, il y a une forme de soulagement, évidemment, qui apparaît. Ensuite, voilà, il y a aussi encore la crainte qu'il y ait, par exemple, un échange de tirs, comme a dit monsieur, qu'il y ait encore des terroristes qui soient cachés quelque part. Bon, on ne connaît absolument pas la situation, enfin tous les détails à ce moment-là. Et donc un membre du groupe d'intervention m'extrait, donc me déplace en arrière, et puis en fait, voilà. On m'extrait de la salle et je me retrouve dans le sas dans un premier temps. Voilà, donc là, je constate en fait un petit peu, comment dire, l'étendue, on va dire, des dégâts de toutes les personnes concernées à ce moment-là par cet attentat et la violence et
Vous étiez effectivement visage au sol. La difficulté, j'imagine, Christophe Molmy, c'était à la fois d'évacuer donc les personnes valides et les personnes blessées et les protéger de ce qu'elles n'avaient peut-être pas vu.
Oui, absolument.
Ça fait partie aussi, j'imagine, des premiers secours, qui est de dire, alors attention, ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas le sol.
Ça, on l'a fait, mais ça a été difficile de toute façon, dès le début, de prendre pour nous la mesure des choses et de s'organiser. Il faut comprendre que, moi je me souviens que la première chose que j'ai vue en rentrant, à l'orée de la salle, c'est peut-être 500 ou 600 personnes couchées qui ne bougeaient plus du tout. Alors, sur le moment, vous vous demandez s'ils ne sont pas tous morts. Hein.
D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est une des images les plus marquantes.
C'est ce qui m'est resté le plus. Mmh. Ouais. Ça et l'odeur aussi, et l'odeur du sang et de la poudre. C'est prégnant, ça, on l'oublie pas. Donc voilà, donc on est allé quand même, je pense, assez vite dans une situation qui était difficile à gérer. Et j'ai l'honnêteté de dire à laquelle on n'était pas préparé, parce que personne n'était préparé à ça. Vous savez, quand on fait un peu l'histoire des attentats, d'abord une attaque de cette ampleur-là, il n'y en a pas eu en France, sinon pendant la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence à Oradour-sur-Glane, mais sinon on n'a pas eu ça, fort heureusement. Et même à l'étranger, peut-être à Bombay, mais des attaques aussi violentes, aussi importantes, disséminées. On a quand même eu 8 attentats en 33 minutes qui sont échelonnés. Donc pour nous, il y en a un qui tombait, puis un autre, on se dit, mais ça ne va jamais s'arrêter. Donc tout ça, il fallait qu'on le prenne en compte d'un point de vue stratégique et tactique sur place pour évoluer dans le bâtiment.
On va se retrouver dans un instant et poursuivre notre échange sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
Comment pourrais-je pardonner ? C'est le livre de Victor Rouard avec Luc-Antoine Lenoir, le récit sans concession d'un rescapé du Bataclan contre le fanatisme aux éditions de l'Observatoire. Une véritable réflexion dont on parlera dans un instant avec vous, Victor. Christophe Molmy, vous êtes également notre invité. Vous étiez donc chef de la brigade de recherche et d'intervention en 2015. On vient de le dire il y a un instant, l'évacuation du Bataclan, c'est effectivement évacuer d'abord les personnes valides, puis les personnes blessés, et puis c'est faire un état des lieux de la situation, et c'est aussi neutraliser des terroristes qui sont encore sur place.
Oui, alors ça, il faut encore savoir s'il y a des terroristes sur
place.
Parce que je souligne que pendant une heure à peu près, on pensait qu'il n'y avait plus personne. D'ailleurs, quelques minutes avant de savoir qu'il y avait une prise d'otage, c'est-à-dire de savoir que derrière une porte, on avait des otages et deux terroristes, moi j'ai eu le sentiment net qu'on est arrivé trop tard, en me disant ils sont partis avant qu'on arrive, ce qui est très frustrant.
Alors qu'ils étaient à l'étage.
Et puis en plus, de se dire ils ont pu aller ailleurs pour recommencer. Donc on se prépare déjà à faire un bond et ça c'est terrible. Voilà. Donc alors il faut faire le bas, je ne vais pas faire trop de tactique, mais il faut faire le bas. On ne peut pas monter dans les étages tant que le bas n'est pas sécurisé. Mmh. C'est pas possible, pour nous c'est trop dangereux. Donc le bas étant fait, on a commencé à progresser dans les étages, où de nouveau on avait des gens qui allaient trop vite, qui allaient pas assez vite, qu'il fallait rassurer. Moi j'ai vu une demi-douzaine de personnes entassées dans des toilettes, on en a vu descendre des faux plafonds. Enfin c'était impressionnant quoi. Difficile d'ailleurs, je pense qu'on l'a réussi, mais il faut garder de la distance humainement avec tout ça, c'est affreux de le dire, mais on ne peut pas se laisser submerger par l'émotion, parce que sinon on n'arrive plus à rien faire, on est nous-mêmes sidérés. Donc moi je me rappelle un collègue qui glisse dans le sang, qui tombe et qui se relève et qui voit que sa tenue est maculée de sang, et il a un instant, il est saisi. Puis après, il se reprend. Mais c'était difficile aussi pour eux, il ne faut pas l'oublier, parce qu'ils ont été confrontés à une situation terrible. Mais il fallait qu'ils mettent ça de côté pour continuer à progresser. Mmh. Et c'est seulement donc à 23h15 qu'on se retrouve devant cette porte et on entend hurler. Et on comprend, parce qu'un otage nous hurle, ce que les terroristes l'obligent de hurler, on comprend qu'il reste une douzaine d'otages avec deux terroristes, avec des gilets explosifs et des kalachnikovs. Et qu'on a une prise d'otage en cours, et c'est plus du tout la même chose pour nous.
Alors, pendant ce temps-là, on reviendra sur cette prise d'otage, pendant ce temps-là, Victor Rouard, vous êtes à l'extérieur, vous avez été pris en charge ?
Alors oui, une fois sorti, donc je suis pris en charge, donc on m'apporte les premiers soins. Donc,
Est-ce que vous avez pris la mesure quand vous êtes sorti de ce qui s'était passé?
Oui, parce que alors les secours me déplacent et en fait j'entends des discussions autour de moi, donc je distingue pas très bien qui parle. J'ai perdu beaucoup de sang, je suis choqué, sonné, mais je distingue malgré tout les propos d'une personne et raconte qu'il y a eu des attaques donc au Stade de France, que des terrasses aussi. Donc je comprends en fait que
l'ampleur
des dégâts, et surtout que les attaques étaient coordonnées, donc il s'agit vraiment d'une forme de, enfin c'est qu'il y a eu plusieurs attentats, une forme de, enfin je dirais de entre guillemets de 11 septembre, enfin d'une violence inouïe, et que nous avons été victimes voilà de quelque chose d'absolument dramatique. Et ensuite je suis, on m'apporte les premiers soins, donc garrot, perfusion, un secouriste reste avec moi, s'occupe de moi, et c'est à ce moment-là où voilà, bon, j'ai plus trop de force et je veux absolument prévenir mes parents que je suis sorti, que je suis vivant, parce que j'étais convaincu qu'ils étaient au courant que j'étais présent au Bataclan ce soir-là. Et heureusement, parce que ça a été finalement un soulagement pour moi émotionnellement ensuite, il ignorait. Donc,
vous avez appelé votre maman et votre maman ignorait, mais vous lui avez juste dit que vous alliez bien et que vous étiez blessé.
Exactement, parce que j'avais plus trop de force, je me sentais pas capable de parler longtemps, donc je lui ai juste dit l'essentiel, que j'allais bien, que j'étais juste blessé, que j'allais à l'hôpital. Et ensuite, voilà, le secouriste est resté avec moi, m'a maintenu éveillé aussi parce que je commençais un petit peu à partir. Ouais.
Et toute la reconquête après de l'usage de vos jambes que l'on peut retrouver dans votre livre et toute votre convalescence, parce que ça laisse des traces, évidemment, des traces physiques et psychologiques. Christophe Molmy, pendant que vous étiez derrière cette porte et que vous saviez qu'il restait des otages et des terroristes, y avait des vies qui reprenaient leur cours, abîmées. Des destins fauchés et vous êtes toujours dans l'action à ce moment-là. Vous êtes toujours dans l'action parce que vous savez que là, vous êtes face à quoi ? À l'épisode final, en tout cas, du Bataclan ?
En tout cas, du Bataclan, oui, parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas encore des terroristes ailleurs, mais au Bataclan, oui. Et je souligne que c'est surtout une situation qui est très difficile, parce que il faut comprendre, sans trop rentrer dans les détails, qu'affronter des terroristes dans un couloir, c'est probablement ce qu'il y a de pire. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, ni pour eux, ni pour nous. C'est un affrontement direct, avec des otages au milieu. Donc, quand on se lance là-dedans, les gars, je pense qu'on fait un travail extraordinaire. La BRI, ils ont eu, quelque part, la même détermination que ceux qu'ils affrontaient. Parce que, sans en faire de trop, je pense que les premiers de colonne, tous ceux qui étaient dans la première colonne, en tout cas, s'il y avait une seconde colonne derrière, se sont dit, on risque assez fort de se faire faucher aussi, hein. Imaginez-vous, un tir de Kalachnikov, c'est terrible. Heureusement, on avait un bouclier devant qui a encaissé les premières salves. On a un collègue qui a été très durement blessé à la main. Mais avec le recul, on se dit que les gars ont fait un boulot super, que c'est le fruit aussi de l'expérience et de l'entraînement. Mais on a eu aussi de la chance, hein. On a sûrement été aidés, je sais pas, mais on n'a pas un otage qui a été blessé. On a eu qu'un seul blessé. Bon, lancer cet assaut, c'était quelque chose de très difficile. Moi, je suis allé voir mes autorités, notamment le préfet de police, Michel Cadeau, mon directeur, et le procureur de la République, François Molins. On en a discuté un peu. Moi, je leur ai expliqué, on avait essayé de négocier, mais au bout du deuxième coup de téléphone, on a compris qu'on n'arriverait à rien, qu'ils lâcheraient personne. On voulait faire sortir au moins les femmes, avoir une libération partielle d'otages. Et ils voulaient pas du tout. Ils étaient un peu confus. Alors, ils récitaient un peu le même message, hein, mais ils étaient un peu confus. Ils demandaient aussi, ça m'a inquiété, si les chaînes d'info continue étaient présentes. Mais ils n'ont pas demandé à leur parler. Donc, alors, je me trompe peut-être, mais je me suis dit que peut-être ils attendaient d'être à l'antenne pour se faire sauter. Enfin bon, ça se passait très très mal. Donc, je le dis souvent, mais passer à l'assaut, c'est la moins mauvaise solution dans ces cas-là. Donc, j'ai demandé le feu vert aux autorités qui me l'ont donné tout de suite. Mais bon, une fois que vous retournez dans la colonne et que vous demandez aux gars de se préparer, on porte quand même cette idée que ça ressemblait quand même à une mission. Pas suicide, mais je pense que les premiers de colonne savaient très bien le danger qu'ils prenaient pour aller sauver des gens, hein, mais qu'on connaissait pas. Mais ils ont eu ce courage, je trouve, assez extraordinaire.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, les uns et les autres, dans la suite de Jour J sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand
jusqu'à 21h sur RTL.
Et Christophe Molmy, à partir de quelle heure a-t-on considéré que le Bataclan était une zone sécurisée ?
Uniquement après l'assaut. Ouais. On a lancé l'assaut à minuit 18, ça a duré 2-3 minutes, je ne sais plus. Et ensuite, on a eu encore une petite heure où il a fallu sortir encore beaucoup d'otages. On en a trouvé dans les combles, un peu partout. Mais il fallait être absolument certain qu'il n'y ait pas encore un autre terroriste, parce qu'on ne sait jamais dans ces moments-là combien ils sont, qu'on n'en ait pas encore un autre de caché, qu'on n'ait pas d'explosifs de poser. Donc le travail a duré encore une heure, peut-être une heure et demie, avant seulement d'ouvrir les lieux aux services de secours, puis aux collègues qui allaient faire les constatations à la brigade criminelle. Mais on avait quand même un soulagement après l'assaut et le résultat de l'assaut, mais il y a eu encore un peu de travail derrière.
Est-ce que cet attentat, cette nuit du 13 novembre, reste pour vous et pour vos équipes de l'époque l'un des souvenirs les plus marquants, voire le plus marquant de leur carrière ?
Je sais pas, probablement. Ce qui est certain, c'est que quand on compare avec Vincennes, après Vincennes, on est rentré au service, on avait vraiment une liesse parce que on avait sorti 27 personnes, on est arrivé, il y avait 4 morts, ça fait 4 morts de trop, mais ils sont morts avant qu'on arrive. Personne chez nous avait, enfin, on avait eu un blessé, mais personne chez nous avait été gravement blessé. On était heureux, quoi, d'avoir ce résultat. Après le Bataclan, même si on avait sauvé les personnes du couloir, et je pense aider à extraire tous les autres, le bilan était beaucoup trop lourd. Il faut imaginer, pas entrer dans les détails, mais il faut imaginer la salle où il ne reste plus que les corps. C'est terrible, quoi. Donc on a du mal à se satisfaire après.
Victor Ouard, dans votre livre « Comment pourrais-je pardonner », qui est un témoignage essentiel, mais c'est plus qu'un témoignage essentiel, hein, il y a aussi une réflexion sur le terrorisme qui a frappé le pays ces années-là, de façon régulière, méthodique, sans relâche, comme le sentiment finalement, quand on lit votre livre, que l'information a été pour nous très diffuse, et vous nous faites comme un rappel finalement de ces années d'immenses tensions que vous avez vous-même connues, évidemment, Christophe Molmy. Vous pouvez nous raconter cette réflexion qui a été la vôtre pendant votre convalescence ?
Oui, alors après mon séjour à l'hôpital, donc je me retrouve en hospitalisation à domicile, j'ai besoin de soins, donc je fais des allers-retours régulièrement à l'hôpital. Et pendant cela, donc je suis dans une sorte de cocon un petit peu, donc bon, on peut protéger heureusement, je suis dans un cadre assez, assez favorable et les choses évoluent favorablement. Mais je continue évidemment de suivre les informations de ce qui se passe au fil des semaines et des mois. Et donc de nouveaux attentats surviennent. Et à chaque fois, donc la peur, l'angoisse revient parce que finalement ça me ramène à ce que j'ai vécu le soir du 13 novembre. Et je ressens comme une colère déjà, évidemment, mais une forme d'impuissance aussi, d'être dans l'incapacité, de voir encore de nombreux morts, de voir des attaques différentes aussi, avec différents procédés.
Ce sentiment que ça se répète, c'est
exactement
ce que vous expliquez.
Les attentats se succèdent et comme une espèce de spirale absolument horrible. Et du coup, je constate ça avec une tristesse, un effarement, une sidération aussi, puisque j'ai l'impression qu'on a basculé aussi quelque part dans comme une nouvelle page historique finalement quelque part de notre histoire où
les attentats deviennent très courants. On ne pourra pas compter sans les attentats.
Voilà.
Ouais. C'est aussi un constat que vous avez fait, Christophe Molmy.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure des années des attentats, mais finalement, on n'en est jamais sorti. Hein. On a un point d'orgue en 2015, mais ça ne s'est jamais arrêté. Alors, certes, les attentats encore récents sont peut-être moins marquants. D'abord, il y a une sédimentation. On finit par oublier les autres parce que ça s'empile sans arrêt. Fort heureusement, on a aujourd'hui des attentats qui sont le fruit de personnes qui sont déjà sur le territoire et qui s'auto-radicalisent presque, donc qui ont des moyens un peu rudimentaires et qui sont souvent seuls. Donc ils font moins de dégâts, fort heureusement, mais ils essayent quand même, hein, encore il y a quelques jours. Donc moi, après, je ne sais pas comment considérer que c'est un attentat ou pas, parce qu'on me dit que quelqu'un est à moitié fou. Alors évidemment, en novembre, en janvier, mais surtout en novembre, on était face à quelque chose de très préparé, avec des gens qui avaient été formatés pour ça, qui étaient revenus en France pour ça. Bien évidemment, c'était beaucoup, beaucoup plus grave, mais j'ai pas l'impression que ce soit jamais arrêté, moi.
Ce que vous déplorez aussi, alors s'il y a cette prise de conscience, vous déplorez vraiment une forme de posture de résilience, un immobilisme, Victor Ouard.
Oui, c'est un petit peu l'une des réflexions que j'ai dans le livre. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression, parce que je suis dans un état, bon, voilà, blessé, je suis en pleine convalescence. Et encore une fois, voilà, c'est une impression qui n'est que la mienne, hein, durant ma convalescence et durant les moments que je vis à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que finalement, voilà, oui, on peut pas faire autrement. Donc, nous sommes voués finalement à subir ça constamment. Donc, à partir de là, se pose une réflexion en moi. Comment ça se fait? Est-ce que, voilà, essayer d'analyser finalement un peu la situation, comment en est-on arrivé là, à voir des attentats se succéder régulièrement sur le territoire, à dénombrer autant de victimes, et finalement c'est un petit peu en regardant de plus près à chaque fois les différents attentats, enfin en tout cas les différents assaillants, leurs profils. Je me dis, malheureusement, peut-être que certains auraient pu être évités au regard par exemple d'une condamnation pénale qui n'a pas été effectuée totalement ou qui aurait dû être probablement plus sévère dans son application. Voilà, sur des différents détails, que ce soit au niveau administratif, au niveau judiciaire ou autre, je constate certains dysfonctionnements finalement, et d'ailleurs je remets absolument pas en cause le travail des différents services, hein. Je tiens à les saluer, c'est ce que je fais dans le livre. Je sais qu'ils font un travail formidable et très difficile, très délicat, donc c'est juste simplement j'essaie de regarder ça d'un point de vue d'un citoyen lambda que je suis, et c'est assez frustrant, assez
désespérant,
dur, assez
vous
désespérant
dites,
de voilà de constater que finalement malheureusement le terroriste en question ou l'assaillant aurait dû éventuellement se retrouver en prison à ce moment-là lorsqu'il a commis son méfait, ou que finalement ça aurait pu être évité pour différentes raisons, et c'est le sentiment un petit peu qui domine à ce moment-là, c'est bah voilà la tristesse et puis une forme de colère, mais qui est absolument pas dirigée contre quelqu'un en particulier. C'est une forme d'impuissance, et de se dire mais comment peut-on lutter face à ce phénomène qui malheureusement se répète au fil du temps.
Quel est votre point de vue, Christophe Molmier? Est-ce qu'on est dans une impuissance réelle?
Non, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans une impuissance. D'abord, il faut souligner que les services de renseignement évitent plus d'attentats qui ne sont commis. Alors, il communique peut-être pas assez, mais je peux vous assurer qu'il travaille énormément. La difficulté, c'est qu'on a c'est un mal endogène aujourd'hui. Donc, il faut le discerner. Lorsqu'on a face à nous des personnes qui se radicalisent seules ou qui décident seules de passer à l'action, c'est compliqué. Il n'y a pas d'échange forcément sur Internet, ils ne parlent pas à des personnes autour d'eux, donc on peut pas être dans la tête de tout le monde. Hein. Mais il y a un gros travail de renseignement, je pense, qui est fait. Voilà, maintenant, moi, je ne vais pas faire d'analyse sur les causes de tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'on a passé un cap. Moi, je me souviens avoir discuté avec des collègues libanais ou israéliens qui me disaient, voilà, vous allez apprendre à vivre avec ça, parce que c'est une réalité. Moi, je ne vais pas plus loin que ça, si vous voulez, dans l'analyse. Je considère en tant que policier qu'on est face à une réalité. C'est un combat. C'est un combat maintenant qui est quotidien. Et il faut l'affronter. Mais ce n'est pas fini.
Le pardon, dites-vous, Victor Rouard, c'est l'habillage commode du renoncement. Voilà. Je voudrais qu'on termine sur cette idée. Comment pourrais-je pardonner? Le pardon n'est pas une obligation.
Alors la phrase peut paraître un peu forte, je le conçois tout à fait, un petit peu dure.
Non, je la trouve assez
simplement
juste.
Simplement au regard de la situation, alors je prends évidemment, c'est uniquement une opinion personnelle, mais je voulais aborder cette question du pardon, et parce que c'est quelque chose, voilà, bon, je suis quand même attaché évidemment à la religion, côté chrétien finalement, et au pardon, donc qui est une valeur immuable liée à ça, donc évidemment que j'aurais envie de pardonner, je suis totalement lié à ça, mais je pense qu'il y a le côté aussi rationnel et l'aspect purement factuel. Enfin, le pardon ne peut pas être, selon moi, totalement gratuit et sans
accordé
en fait, de manière totalement unilatérale, en fait. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait. Je pense que le pardon, pour qu'il soit accordé, nécessite la rencontre de deux volontés à savoir donc celui qui veut se faire pardonner et celui qui accorde le pardon. À partir du moment où la personne responsable ne le demande pas et
n'exprime aucun regret.
N'exprime aucun regret. Et d'ailleurs, on l'a pu le voir au procès, par exemple, avec la provocation de Salah Abdeslam le premier jour du procès. Bah, il me paraît compliqué à partir de ce moment-là de pouvoir l'accorder. Et encore une fois, voilà, l'aspect factuel, quand on a subi des traumatismes, et c'est ce qui n'est pas mon cas, j'ai eu de la chance, je m'en suis très bien sorti, j'ai eu cette chance inouïe. Mais beaucoup de gens ont perdu un membre qui leur était cher. un frère, une sœur, une mère ou autre, et c'est des, il y a eu tellement de souffrance engendrée par ces actes qui me, voilà, on peut pas, selon moi, après une chose aussi grave et aussi douloureuse, accorder un pardon unilatéral et aussi facilement.
Vous parliez du procès qui a commencé le 8 septembre, le verdict est attendu fin mai prochain. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Victor ?
Alors malheureusement, pas énormément de choses, hormis évidemment donc, l'addition de justice hein, qui sera rendue et qui est importante. Enfin voilà, j'espère qu'elle aura quand même elle représentera plus qu'une force symbolique. Voilà, enfin il faut que la justice soit évidemment exemplaire et je n'en doute pas là-dessus. Après, c'est plus des vœux que j'aimerais bien, mais je reste assez sceptique sur leur réalisation. Peut-être que l'issue du procès pourrait éventuellement nous permettre de connaître d'autres éléments par rapport à la manière dont ces attentats ont été fomentés, répondre à différentes questions voilà qui sont encore assez mystérieuses. Donc ça pourrait peut-être aider par la suite pour trouver de différents moyens
de lutter terrorisme.
Voilà face à ce phénomène qui malheureusement voilà aujourd'hui est très présent sur notre sol. Alors, ensuite surtout une grosse pensée pour les victimes et leurs familles, qu'elle puisse trouver une forme d'apaisement à travers cette décision, même si malheureusement j'en doute, je pense que le mal est fait et beaucoup voilà ont été, enfin il y a eu tellement de vies brisées de douleurs par rapport à ça, et je l'ai ressenti d'ailleurs en assistant à une audience où et ce témoignage m'avait absolument marqué d'une jeune fille qui avait 18 ans à l'époque. Et elle racontait que elle avait eu des mots très très forts là-dessus. Elle disait je respire encore, mais je suis morte ce soir-là, et j'ai trouvé ça absolument terrible, et parce qu'elle est avec 18 ans à ce moment-là, et finalement on s'aperçoit du nombre de vies brisées, pas seulement pour les morts mais aussi pour ceux qui ont été impactés directement dans leur chair et dans leur âme ce jour-là.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Victor Rouard. Je rappelle et je conseille votre livre « Comment pourrais-je pardonner » aux éditions de l'Observatoire. Christophe Molmy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes chef de la brigade de protection des mineurs et que vous étiez effectivement chef de la BRI en ce 13 novembre 2015. Merci à vous deux messieurs.
RTL, jour J. Avec Flavie Flamand.